Et voici la revue de presse internationale avec vous, Ilan Malka. Bonjour.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Aider le Liban, c'est bien sûr la thématique principale abordée par la presse à travers le monde.
Oui, et on peut le lire dans des articles de tous les endroits du globe. De nombreux pays manifestent leur solidarité. Alors voici quelques exemples pris ici et là. Si on regarde par exemple la presse néerlandaise, le Télégraphe nous apprend que les Pays-Bas envoient une équipe de recherche et de sauvetage pour aider à trouver des personnes disparues. La ministre néerlandaise chargée de la coopération, Sigrid Kaag, a été coordinatrice des Nations Unies pour le Liban pendant de nombreuses années. Le personnel que nous envoyons, dit-elle, va chercher des gens sous les décombres. Si on ouvre par exemple la presse brésilienne, c'est la même solidarité et des liens forts également qui se manifestent. Rio de Janeiro a proposé une aide humanitaire, lit-on dans O Globo, en suggérant d'envoyer des médecins du réseau sanitaire municipal en plus de médicaments pour soigner les blessés. Même chose dans la presse algérienne, l'Algérie va envoyer 4 avions transportant du personnel soignant, nous apprend Algérie 360. Alors comment chaque individu peut apporter sa contribution? C'est le thème d'un article du New York Times, simplement intitulé « Comment aider le Liban ?», qui cite plusieurs organisations qui se mobilisent dans la région et que chacun peut soutenir. Par exemple, Impact Lebanon, qui a mis en place une campagne de financement sur le terrain, ou encore Baitna Baitak, une organisation caritative qui cherche à abriter les personnes déplacées, extrêmement nombreuses au Liban aujourd'hui. Pour s'en convaincre, lire à nouveau aujourd'hui le site du quotidien libanais L'Orient le Jour, qui recueille à Beyrouth le témoignage de sans-abri comme Joseph. De la maison qu'avait construite mon grand-père au 19e siècle, dit-il, il ne reste rien. Joseph est bien sûr loin d'être un cas isolé. C'est le triste sort de près de 300 000 habitants de la capitale.
Article à retrouver donc dans L'Orient le Jour. Ilan Malka, parmi les autres sujets abordés aujourd'hui par la presse internationale, il y a la Colombie.
Oui, la Colombie où l'ancien président Alvaro Uribe, encore extrêmement influent dans le pays, a été assigné à résidence par la justice. Il est soupçonné de manipulation de témoins. Les faits remontent à 2012. À l'époque, Uribe était accusé par l'un de ses opposants d'avoir eu des liens avec des paramilitaires d'extrême droite. Et il aurait tenté d'influencer un témoignage donc pour se blanchir de ses accusations. En tout cas, c'est ce que la justice colombienne essaye de savoir. Pendant l'enquête, l'ex-chef d'État, qui nie les faits, a donc interdiction de sortir de chez lui. Alors pourquoi cette décision fait-elle grand bruit en Colombie? Le New York Times nous l'explique. Elle fait date dans un pays, écrit-il, où les hommes politiques n'ont que rarement été appelés à répondre de leurs actes devant les tribunaux. Alors que d'autres pays d'Amérique latine se sont attaqués à la corruption de manière agressive ces dernières années, en poursuivant parfois des présidents, la Colombie a rarement mis en accusation des acteurs politiques importants. Même analyse dans une partie de la presse colombienne. Pour le Bogota Post, il s'agit d'un geste sans précédent de la Cour suprême. Étant donné, peut-on lire, qu'Uribe est accusé d'entrave à la justice, l'idée, eh bien, c'est qu'il sera moins en mesure de le faire s'il ne peut pas quitter sa maison. C'est la première fois que cette mesure est prise à l'encontre d'un ex-président. Pour certains, la justice colombienne manifeste donc enfin son indépendance, mais c'est une affaire qui fait quand même débat. Par exemple, pour Thierry Weiss, dans le journal El Tiempo, c'est le monde à l'envers. Il y a un peu plus d'un an, cette même cour, écrit-il, a ordonné la libération d'un ancien guérillero des FARC accusé de trafic de drogue, qui a ensuite disparu dans la nature. Uribe, poursuit-il, est un ancien président populaire qui, malgré plusieurs procès contre lui, n'a jamais donné aucun signe de vouloir s'échapper.
Enfin, dans la presse internationale toujours, les réseaux sociaux qui sévissent contre Donald Trump.
Oui, Facebook et Twitter qui haussent le ton face au président des États-Unis. En cause, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux donc où il affirme que les enfants sont presque totalement immunisés de par leur âge contre la Covid-19. Facebook a supprimé cette publication pour cause de fausses affirmations. Twitter, de son côté, a interdit au compte de campagne de Donald Trump de continuer à publier tant qu'il ne retirerait pas l'extrait de cette interview, ce qui a semble-t-il été fait car la vidéo n'apparaît plus sur Twitter et le compte, lui, est toujours actif. L'équipe du président américain, bien sûr, a réagi, on le lit sur le site de CNN. La porte-parole Courtney Parella accuse la Silicon Valley d'avoir un parti pris contre Donald Trump. Elle déclare que les réseaux sociaux ne sont pas les arbitres de la vérité. Cet argument est-il en train de devenir petit à petit caduc? En tout cas, certains réseaux sociaux sont en train de changer de ligne sur le sujet, c'est ce qu'explique le site américain Vox.com. Twitter a commencé dès le mois de mai, écrit-il, à faire du fact-checking sur certains des posts de Donald Trump. Quant à Facebook, eh bien, il évolue lui aussi, en partie à cause du coronavirus. Jusqu'à présent, écrit Vox.com, Facebook a largement renoncé à modérer le discours politique parce qu'il vise à être une plateforme ouverte de communication plutôt qu'un arbitre de la vérité. Mais le réseau social a adopté une ligne dure sur la désinformation à propos de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et le poste de Trump a franchi cette ligne. Fin de citation.
Merci. Ilan Malka, votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.